France Inter.
Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Marie. Salut Marine. À demain. Nous, on est partis. Ravis de vous retrouver. C'est le 18-20 qui commence. Soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Et bonsoir Céline Asselot.
Bonsoir Fabienne. Bonsoir à tous.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, une enseignante bientôt jugée pour harcèlement sur une de ses élèves.
Oui, elle s'appelait Evaëlle. Elle avait 11 ans lorsqu'elle s'est donné la mort en 2019 et sa professeure vient d'être renvoyée en correctionnel pour avoir dégradé les conditions de vie de l'adolescente selon les mots de la juge. Et c'est très rare. On y revient au début de ce journal.
Les autres titres, Céline.
Comment sensibiliser au risque des PFAS, les polluants éternels? Deux députés écologistes ont décidé de tester des célébrités. On verra dans un instant que le résultat est plutôt inquiétant. Les expulsions sont en forte hausse. On entendra le cri d'alerte du porte-parole de l'association Droit au Logement. Et puis on parlera aussi de cette inspection menée par le Sénat au ministère de l'Économie pour en savoir plus sur le vrai déficit de la France. Il devrait atteindre 5,6% du PIB en 2023.
Et Jean-François Husson, le rapporteur général de la Commission des Finances du Sénat, qui s'est rendu à Bercy tout à l'heure, sera l'invité de ce journal.
On ira aussi à Lyon, où les opposants à Laurent Wauquiez jouent sur l'ironie pour dénoncer la politique trop conservatrice, dit-il, du président de la région. Et puis à Londres, où des révélations sur un boys club créent des remous au sein de la classe politique.
Au sommaire du 18-20 ce soir, nous sommes d'abord au Sénégal, qui va voter enfin dimanche, des élections bien programmées finalement. On se demandera si on a eu chaud pour le pays le plus stable de cette partie du continent africain et surtout si tout va changer au Sénégal. Le reportage est en Serbie où on se souvient des bombardements de l'OTAN en 99 et cet exercice de mémoire va se faire parfois avec un ressentiment anti-Occident qui court dans le pays. Céline Asselot, vous nous direz que la Suède veut que les petites filles de 10 ans arrêtent de se mettre de l'antiride. Franck Madvon regarde la résolution à venir sur Gaza et ce que feront les Américains. Et dans la Tech la première avec Stéphane Jourdain, on a vu des dizaines de fake d'Mbappé et tant d'autres. Demain, c'est la journée mondiale de l'eau et ce soir, au téléphone sonne, c'est la journée de la baignabilité de nos eaux vives. Les fleuves, les rivières, les lacs, les cours d'eau, peut-on les dépolluer et comment? Et bien sûr qu'on parlera de se baigner ou pas dans la Seine. Appelez-nous. Allez, c'est parti.
France Inter.
Elle va donc devoir s'exprimer devant la justice sur son attitude envers Evaëlle.
Oui, cette enseignante a-t-elle contribué par ses mots, par ses actes, au mal-être de son élève? Ce sera au tribunal de répondre à cette question. Il y a 5 ans, Evaëlle se donnait la mort dans sa chambre, malgré les alertes répétées de ses parents, qui avaient fini par la retirer du collège d'Herblay, dans le Val d'Oise, où elle était harcelée. Aujourd'hui, la justice a décidé de renvoyer deux de ses camarades et l'une de ses enseignantes en correctionnel. Bonsoir Delphine.
Bonsoir.
Et dans son ordonnance de renvoi, la juge a des mots très durs à l'encontre de cette professeure.
Et si cette professeure de français, qui n'a aujourd'hui plus le droit d'enseigner à des mineurs, n'est finalement pas poursuivie pour homicide involontaire, elle est en revanche accusée de d'avoir humilié régulièrement Evaëlle, de l'avoir isolée au fond de la classe, de l'avoir obligée à répondre aux reproches formulés par ses camarades malgré ses pleurs lors de 2 heures de vie de classe qui portaient sur le harcèlement scolaire. Tout cela a mené à une dégradation très importante des conditions de vie d'Evaëlle, écrit la juge, qui ordonne donc un procès, une grande satisfaction pour Marie, la mère de la collégienne.
C'est une première victoire, c'est ce que nous espérions depuis 5 ans. On veut pouvoir montrer à travers notre cas que oui, en France, on y arrive. Même si c'est long, même si malheureusement, encore aujourd'hui, il faut attendre un drame pour que ce soit vraiment pris au sérieux. Mais voilà, c'est quand même un espoir. Les harceleurs doivent répondre de leurs actes.
Et lors du procès à venir, la mère d'Evaëlle espère donc des explications, mais aussi que d'autres enfants puissent se sentir soulagés, car la professeure de français est renvoyée devant un tribunal correctionnel pour harcèlement moral sur Evaëlle et sur 2 autres élèves du collège d'Herblay sur cette même période entre 2018 et 2019. L'avocate de l'enseignante rappelle, elle, auprès de nos confrères de l'AFP, que sa cliente réfute fermement tout harcèlement moral.
Merci Delphine Evenou, service police-justice de France Inter. Voilà un vote qui embarrasse la majorité à quelques mois des élections européennes. Le Sénat dit non au CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Cet accord très décrié par les agriculteurs est appliqué depuis 2017 en Europe, mais il n'avait jamais été soumis au vote des sénateurs. Ce sont les élus communistes qui avaient décidé de le mettre à l'agenda. Et la prochaine bataille aura lieu à l'Assemblée nationale puisque les députés communistes cette fois fois, ont décidé d'inscrire le traité à l'ordre du jour de l'Assemblée. Ce sera à la fin du mois de mai.
Et le Sénat qui s'inquiète aussi du déficit de la France.
Oui, qu'il fait savoir en s'invitant au ministère de l'économie. C'est Jean-François Husson, le rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, qui s'est rendu tout à l'heure à Bercy pour effectuer un contrôle sur pièce et sur place. C'est l'une des prérogatives des sénateurs et tenter d'en savoir plus sur le déficit du pays. Jusqu'à présent, le gouvernement s'était contenté de dire que l'objectif de 4,9% du PIB ne serait pas respecté. En réalité, le déficit sera de 5,6% en 2023 et de 5,7% en 2024. Si rien n'est fait, c'est le résultat de cette inspection.
Et bonsoir Jean-François Husson.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le rapporteur général de la Commission des finances du Sénat. Vous êtes aussi sénateur LR de Meurthe-et-Moselle. Dites-nous d'abord comment vous avez été reçu à Bercy, Jean-François Husson, et surtout qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu écrit que les services de Bercy savaient déjà que le déficit était probablement plus haut que ce qu'ils ont dit?
D'abord, courtoisie républicaine, disponibilité des services de Bercy, il n'y a eu aucun souci. Les échanges se sont passés de manière à la fois sereine et très cordiale. Mm-hmm. Et puis, évidemment, l'objectif, qu'est-ce qui a provoqué ce déplacement? Ben, c'est simplement l'annonce par voie de presse hier, d'une réunion autour du président de la République, du Premier ministre et des quelques ministres du gouvernement, annonçant une dégradation du solde budgétaire pour l'année 2023. Effectivement, au lieu d'un déficit de 4,9% à 5,6% du PIB. Écoutez, les élus, le Parlement est là pour évaluer et contrôler l'action du gouvernement, puisque le gouvernement a choisi de passer par la presse plutôt que d'exprimer aux élus. Eh bien, moi, j'ai souhaité savoir si des informations existaient préalablement. J'ai pu mesurer qu'effectivement, des alertes avaient été adressées aux ministres dès la fin de l'année 2023.
Et qui n'ont pas visiblement été rendues publiques. Vous êtes même extrêmement sévère. Vous dites que le gouvernement a été aventureux. Vous dites qu'il a choisi le silence pour masquer les mauvais chiffres. Ça veut dire tricher, ça veut dire mentir, ça, Jean-François Husson?
En tous les cas, j'ai pas dit pour masquer, j'ai effectivement dit que le gouvernement...
Pour masquer les mauvais chiffres, c'est ce que vous avez dit en conférence de presse.
Il a fait en tous les cas un choix aventureux. Pour quelle raison? Quand vous avez une dégradation des chiffres, soit vous considérez que c'est peut-être un accident, mais le gouvernement a mis entre les premières notes que j'ai vues et les annonces disant on procède à 10 milliards de coupes budgétaires, il a mis 3 mois. 3 mois, c'est beaucoup trop long.
Ça veut dire...
Ça n'est pas acceptable. Lorsque, moi, je l'ai interrogé, le ministre de l'économie et des finances, à 5 reprises, entre le 20 février et le 10 mars. J'ai toujours... Le 20 décembre.
Donc, ça veut dire qu'ils savaient, effectivement, pour l'instant, ils ne disaient rien. Ça veut dire qu'ils espéraient un rebond qui n'est pas venu. C'est un pari perdu, peut-être. C'est ça que ça veut dire?
Oui, ça, en tous les cas, il a fait un pari, c'est un pari perdu, mais je pense qu'on ne parie pas avec la situation budgétaire de la France, quand on regarde l'état de nos finances publiques. 900 milliards de déficit en plus depuis 2017, excusez-moi, c'est pas un brin de paille.
Jean-François Husson, du coup, vos préconisations, c'est quoi? Est-ce qu'il faut couper d'urgence? Est-ce qu'il faut tailler dans le vif? Est-ce que vous dites même que les 10 milliards et les 25 milliards d'ailleurs de l'année suivante qui ont été annoncés, tout ça ne suffira pas?
Écoutez, d'abord, la responsabilité de la situation, elle les choix au gouvernement et au président de la République. Donc aujourd'hui, il faut proposer une méthode pour regarder de quelle manière on peut affronter cette situation pour procéder à la fois au redressement de nos finances publiques, mais également tracer une voie, une perspective pour réenchanter la France. Nous ne pouvons pas sombrer, je dirais, dans le pessimisme et nous devons retisser des liens de confiance avec les Français.
Alors réenchanter, ça va être compliqué. Vous le dites vous-même, oui, que ces fameux 10 milliards, c'est même un avant-goût de ce qui nous attend. Est-ce que ça veut dire que le remède s'appelle austérité, Jean-François Husson?
J'ai pas envie que ce soit de l'austérité. Je pense qu'il faut... mais c'est pour ça que c'est d'abord un problème d'état d'esprit, de manière de faire et d'être. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer. Nous sommes finalement au bord d'un précipice ou d'un gouffre. Plus de 3 000 milliards de dettes. Ça donne le tournis aux Français, mais surtout, ça leur fait peur. Ça les angoisse d'où la montée des colères et peut-être des populismes multiples et divers. Je crois que nous avons une responsabilité. Cette responsabilité, c'est de redonner le moral et de réinvestir là où on va entraîner les Français pour redonner des couleurs à la France et retrouver un dynamisme. Mais effectivement, ça passera aussi par des efforts. Ça n'est pas possible autrement. Le gouvernement a trop tardé.
On a entendu les efforts. Jean-François Husson, rapporteur général de la Commission des Finances du Sénat, invité de ce journal. Merci beaucoup.
L'actualité ce soir, elle est aussi à l'Assemblée nationale où des députés écologistes tentent de sensibiliser la population au risque des PFAS, les polluants éternels, ces substances utilisées par l'industrie pour leurs propriétés imperméabilisantes, leur résistance à la chaleur, très pratique pour les poêles à frire par exemple, mais soupçonnées par les scientifiques de causer des lésions du foie, des cancers, des maladies de la thyroïde. Et pour prouver qu'elles sont partout, ces substances, deux députés, Nicolas Thierry et Charles Fournier, ont proposé à des personnalités médiatiques de faire le test. Et le résultat, Timur Özturk, c'est que 10 célébrités sur 13 sont contaminées aux polluants éternels.
Oui, l'actrice Mélanie Laurent, l'animateur Nagui ou encore l'activiste écologiste Camille Etienne, on a retrouvé la présence d'un ou de plusieurs PFAS dans leurs cheveux, leurs corps sont contaminés. Le député écologiste Nicolas Thierry voulait montrer que personne n'est à l'abri.
Le citoyen au quotidien ne peut pas y échapper. C'est partout dans les objets du quotidien et il y a un certain nombre d'usages où ils y sont de manière parfaitement inutile. Les emballages alimentaires, les cosmétiques, le textile. On ne peut pas demander aux citoyens d'échapper à une pollution systémique.
Le 4 avril prochain, il présentera une loi pour stopper cette pollution. L'urgence pour son collègue député Charles Fournier, c'est avant tout d'interdire leur production.
Couper le robinet, ça je crois que c'est l'acte indispensable. Donc il faut interdire dans des usages tout ce qui est en contact direct avec l'homme. Et puis, dans un deuxième temps, évidemment, il faudra dépolluer.
Les écologistes proposent une interdiction sur les produits du quotidien dès 2025. Leur proposition de loi contient également l'obligation de détecter la présence de polluants éternels dans l'eau potable et l'introduction d'une taxe pollueur-payeur. Elle ne serait adoptée que si la majorité présidentielle soutenait le texte.
Timur Özturk, depuis l'Assemblée nationale pour France Inter. À Bruxelles, un grand sommet sur le nucléaire était organisé aujourd'hui. Une trentaine de pays, de la Chine aux États-Unis, en passant par le Brésil, s'engagent à mieux coopérer pour développer et financer l'énergie nucléaire vue comme un levier de décarbonation. Bruxelles qui accueille aussi jusqu'à demain un sommet des dirigeants européens consacré lui à la défense et à l'aide apportée à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky appelle les Occidentaux à avoir la volonté politique d'aider son pays. Il est crucial, dit-il, de fournir davantage de munitions aux forces ukrainiennes. Anthony Blinken, lui, est au Proche-Orient pour tenter de faire avancer les négociations sur une trêve. Le chef de la diplomatie américaine est en Égypte aujourd'hui et en Israël demain. Les États-Unis qui semblent infléchir leur position. Washington a présenté aux Nations Unies un projet de résolution appelant un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza après s'être opposé à plusieurs textes allant dans ce sens ces derniers mois.
Retour en France avec les expulsions qui atteignent des niveaux records.
Oui, c'est ce que dit le DAL, l'association Droit au Logement, qui faisait le point à 10 jours de la fin de la trêve hivernale. Il y a eu en 2022 17 500 expulsions, c'est 6 000 de plus qu'il y a 10 ans. Il y a de nombreuses raisons à cela, assure Jean-Baptiste Hérault, c'est le porte-parole du DAL.
On a plusieurs effets. D'une part, une paupérisation des locataires, l'inflation, la hausse des prix de l'énergie, stagnation, voire baisse des revenus, et puis une hausse constante des loyers avec érosion aussi de l'APL. Depuis 2017, on taille dans l'APL. Avec en plus des bailleurs qui sont de plus en plus exigeants. Donc, loyer de plus en plus cher, qui est la conséquence aussi de la hausse des prix de l'immobilier, de la hausse du foncier, et de politiques de dérégulation des rapports locatifs. Les locataires sont plus protégés à l'heure actuelle et on produit de moins en moins de logements sociaux. Et les préfets accordent de plus en plus facilement l'autorisation à la police d'intervenir et d'expulser manu militari, c'est-à-dire expulsion forcée, les locataires en difficulté. Maintenant, la loi Casbarian non seulement accélère les expulsions locatives, réduit les délais que le juge peut accorder, mais aussi considère qu'un locataire qui se maintient dans son logement après un jugement d'expulsion et l'expiration des délais, que ce locataire-là est un délinquant.
Jean-Baptiste Hérault, le porte-parole de l'association Droit au Logement, au micro d'Océane Zitouni, les associations qui appellent à une grande mobilisation. Ce 1er avril à 15h à Paris, place de la Bastille. Le plan de sauvegarde des Galeries Lafayette validé par la justice. Les 26 magasins vont poursuivre leurs activités, toujours sous la houlette de Michel Ohaillon et malgré la défiance affichée par les syndicats à l'encontre de l'homme d'affaires visé par une enquête pour escroquerie en bande organisée.
À Lyon, les élus écologistes décident de lancer un un observatoire du wokisme.
Oui, à ne pas confondre avec le wokisme, ce mouvement qui suscite tant de polémiques, notamment aux États-Unis. Il s'agit bien du wokisme, du nom de Laurent Wauquiez. Le jeu de mots, évidemment, est volontaire. Les écologistes veulent profiter de la session plénière du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes pour dénoncer la politique du président de la région, son obsession sécuritaire et sa vision conservatrice. À Lyon, les précisions de Mathilde Imberti.
Ce n'est pas la personne que l'on vise, mais sa politique, assure Noël Mamère, l'ancien député venu hier en renfort pour le lancement de cet observatoire du wokisme.
C'est un outil qui va bien au-delà de Wauquiez. C'est le discours qu'il tient et la manière dont son discours a été colonisé par le lexique et la grammaire de l'extrême droite. La lente dérive qu'il a saisie au nom d'une certaine forme d'opportunisme.
Concrètement, des articles seront postés sur le site internet du groupe écologiste et des témoignages d'élus qui pourront être anonymes, sous-entendant qu'il n'est pas simple de s'exprimer dans une région au fonctionnement clientéliste, selon Benjamin Joyeux, conseiller régional élu de Haute-Savoie.
Comme favoriser ses amis au détriment de l'intérêt général, avec des communes qui ne sont pas proches de la majorité politique et qui se retrouvent un peu déshabillées tandis que d'autres en bénéficient un plein.
Comment réagit le premier visé au lancement de cet observatoire ?
Honnêtement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? À ce niveau-là, je vais même pas faire de commentaires. Il y a même rien à dire.
Laurent Wauquiez qui se vante d'un bon bilan tant en matière de sécurité dans les gares notamment que d'équilibre budgétaire.
C'est même la région la mieux gérée de France. Ça nous permet d'acheter des rames de train et ça nous permet de baisser la délinquance grâce aux caméras de vidéoprotection et aux équipes de police ferroviaire. C'est la force d'avoir une région bien gérée.
Objectif, dérouler sans accorder trop de poids à l'offensive de l'opposition régionale à ce stade. Lyon, Christophe Vincent, Mathilde Imberti, France Inter.
Elles sont critiquées pour leur manque de débouchés, pour leur déconnexion avec le monde réel, les écoles d'art dans le viseur de la ministre de la Culture. Il y a quelques jours, Rachida Dati esquissait devant l'Assemblée nationale les contours d'une réforme de l'enseignement artistique. Elle avait évoqué la possibilité de fermer certains établissements, ceux qui ont le moins de moyens, le moins de résultats. Ce qui inquiète les représentants du secteur. Florian Guettet, le coprésident du SNEAD CGT, le syndicat national des écoles d'art et de design.
On ne peut pas s'empêcher de voir là-dedans une sorte de désengagement de l'État sur la question des services publics de la culture. On craint pour tout le maillage territorial. Aujourd'hui, on a des filières spécifiques qui sont menacées de fermeture. Par exemple, le Master Design à Lyon, on a appris ça la semaine dernière. On a d'autres écoles qui sont effectivement dans des situations financières où si on ne les aide pas, elles ne vont pas pouvoir voter leur budget à l'équilibre et risquent la tutelle de l'État. On a une ministre qui nous parle beaucoup de territorialité, notamment sur les classes populaires, sur les mondes ruraux. Et bien précisément, les écoles d'art territoriales sont des leviers d'intégration pour ces étudiants-là. Ensuite, il y a une question de diversité pour ne pas produire non plus que des établissements d'excellence, d'autant que on ne sait pas sur quels critères on peut se fixer pour chiffrer, calculer, évaluer ces performances-là.
Florian Guettet, coprésident du SNEAD CGT, au micro de Servane de Pastre pour France Inter. On part maintenant à Londres, où la polémique perturbe l'ambiance luxueuse et feutrée du Gary Club. C'est l'un des endroits les plus sélects de la capitale anglaise, un club où se retrouvent des personnalités influentes, mais qui refusent d'intégrer des femmes, ce qui pousse aujourd'hui deux de ses membres vers la sortie, après des révélations dans la presse. À Londres, les précisions de Richard Place.
1300 membres revendiqués par le Gary Club, dont le siège se trouve en plein cœur de la capitale. Que des hommes, une règle qui n'a jamais changé depuis sa création en 1831, initialement pour y parler théâtre. Cette semaine, le Guardian révèle l'identité des adhérents les plus célèbres. On y trouve des ministres, des députés, des acteurs, des avocats et même le roi, Charles III. Et aussi Simon Case, le secrétaire général de Downing Street, à ce titre, patron de milliers de fonctionnaires. Questionné dans la foulée par des élus sur le Gary Club, voici sa réponse.
Si vous croyez profondément à la réforme d'une institution, mieux vaut la rejoindre et opérer le changement de l'intérieur plutôt que de critiquer de l'extérieur.
Un argumentaire qui n'aura pas tenu longtemps pour celui qui est censé féminiser la fonction publique. Il vient de démissionner du club. Même chose pour Richard Moore, le patron du MI6, les services secrets britanniques. Après les révélations du Guardian, il a d'abord envoyé un mail à des milliers d'employés expliquant qu'il faisait justement campagne au sein du Garrick pour obtenir l'entrée des femmes dans le club. Après une nuit de réflexion, nouveau message du chef du renseignement pour annoncer cette fois qu'il quitte cette association réservée aux hommes. Londres, Richard Place, France Inter.
Et puis la Ligue 1 va changer de nom et de sponsor après la Ligue 1 Conforama. La Ligue 1 Uber Eats, c'est désormais au sein de la Ligue 1 McDonald's que vont évoluer les grands clubs français. Ça permet à la Ligue de football professionnel de doubler ses revenus puisque McDo va payer 30 millions d'euros par an pour apposer son nom à celui de la compétition.
Allez, Céline Asselot, vous reviendrez tout à l'heure en passant sous les radars. Ce sera d'ici une vingtaine de minutes. On jette un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Élodie Calac, bonsoir. Du soleil demain, mais attention, retour de la pluie près de la Manche.
Exactement, bonsoir à tous. On a une dégradation qui gagnera les régions voisines de la Manche demain avec du vent, des pluies plus continues l'après-midi. Partout ailleurs, du soleil, mais patience le matin, il y aura beaucoup de grisailles et des brouillards sur le nord jusqu'au Lyonnais, à l'Auvergne et sur le sud-ouest. Ça ne durera pas, hein, c'est bien le soleil qui l'emportera l'après-midi. Parfois un peu contesté au nord malgré tout, avec encore quelques passages nuageux. Et notez aussi des nuages l'après-midi sur les Pyrénées avec parfois une averse.
Et température printanière ?
4 à 12 degrés, oui, le matin. Et puis l'après-midi, 18 à 25 degrés au sud, 12 à 21 au nord. On en profite puisque ça commencera à baisser par la Manche. Samedi, dégringolade des températures, on perdra parfois 6 à 10 degrés. Et puis des averses balayeront les régions du nord samedi avec parfois de l'orage, du grésil et du vent.
Élodie Calac de Météo France.